Bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre intitulée Dario Fo, politique et rigolade avec Laetitia Dumont-Lévy. Alors Laetitia Dumont-Lévy, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous êtes agrégée d'italien, vous êtes titulaire d'un doctorat en études théâtrales. Vous avez consacré votre thèse à l'auteur et acteur italien Dario Fo et vous êtes maîtresse de conférence à Lyon 2
en études théâtrales.
Et vous vous intéressez au lien entre le spectacle vivant et la télévision.
Oui,
voilà.
Aussi.
Et notamment, j'ai vu aux questions de transcription, d'audio description, etc. Hein, ce qui sont aussi des sujets très intéressants. Alors, vous êtes également traductrice. Vous avez traduit Carmelo Bene.
Oui, j'ai traduit un livre d'entretien de Carmelo Bene qui est paru l'an dernier aux Presses du Réel et j'ai fait une traduction collective, enfin, j'ai dirigé la traduction collective du Pinocchio de Carmelo Bene qui est paru aux Presses universitaires du Midi dans la collection bilingue Nouvelle Scène.
Déjà pour vous présenter, j'aimerais savoir quel est votre rapport à cette langue italienne, comment êtes-vous venu vers la langue et puis vers l'exercice de la traduction et enfin vers Dario Fo.
Alors je n'ai aucune famille italienne. J'allais souvent en vacances en Italie avec mes parents quand j'étais petite, et donc et on visitait des sites antiques, et donc je savais ce que je voulais faire comme langue. Je voulais faire de l'anglais, de l'italien, du latin et du grec, et donc mes parents m'ont placée dans le collège où on pouvait faire tout ça. Donc j'ai commencé l'italien en quatrième, et ensuite en terminale, je n'aimais pas mon prof d'anglais, et du coup j'ai dit d'accord, l'année prochaine je veux bien aller en prépa, mais je ne mange pas à la cantine et j'arrête l'anglais pour faire de l'italien. Donc c'était ma grosse rébellion.
Il y a pire.
Et donc ça a été ma langue en classe préparatoire. Après j'étais quand même plutôt en lettres classiques et j'aimais beaucoup la traduction aussi du latin, un peu moins du grec parce que c'est quand même trop compliqué pour moi. Et puis j'ai raté l'agrégation de lettres classiques, ce qui m'a vexée. Et du coup j'ai dit, et puis j'étais dans une école où on nous obligeait à passer l'agrégation, et donc j'ai dit puisque c'est comme ça, je passe l'agrégation d'italien. Et entre-temps, j'avais un peu plus réfléchi à ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait, c'était le théâtre et la traduction. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et puis, j'avais vu du Dario Fo la veille des résultats du bac et au Festival d'Avignon. Et j'avais vu que tout n'était pas traduit. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Voilà.
Alors, Dario Fo, bien sûr, hein, immense artiste italien, auteur, dramaturge, acteur et puis prix Nobel de littérature en 97. On va le présenter quand même brièvement pour se remettre en tête qu'il est. Il est né à San Giano, près de Varese, en 1926 et il est mort en 2016. Et il a laissé une immense quantité de pièces dont toutes, vous l'avez dit, n'ont pas été traduites en français. On va en reparler. Citons par exemple Mystère Bouffe, Faut pas payer, Joanne Padon à la découverte des Amériques, Mort accidentelle d'un anarchiste, qui lui a valu un Molière d'ailleurs. Également, et puis il a écrit autre chose que du théâtre, on le sait, hein, Amour et dérision, qui est un recueil de nouvelles, par exemple, Le gai savoir de l'acteur, qui est un immense texte sur le jeu d'acteur, La fille du pape, aussi un roman, c'était le dernier, traduit en français, et puis il était acteur. Première question sur Dario Fo, et vous l'avez dit, et c'est intéressant, pourquoi toutes ces pièces n'ont pas été traduites?
Alors, je ne suis pas sûre que poser la question dans ce... Enfin, on peut se demander pourquoi on traduit quelque chose, pourquoi on ne le traduit pas, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus délicat de le dire. En français, Dario Fo a commencé à être vraiment connu. En France, Dario Fo a commencé à être vraiment connu à partir du début des années 1970. Et donc, toutes ces pièces des premières années, de la fin des années 1950 à 1968, avec des farces et des grandes comédies bourgeoises et loufoques. Quelques-unes avaient été traduites, représentées, mais pas publiées, et donc elles n'ont pas eu de... Il n'y a pas eu beaucoup de suites. C'est quand il est venu en France à l'invitation de l'association Dramaturgie, dirigée par José Zoeguino, pour jouer Mistero Buffo, qu'il a commencé à se faire connaître, et c'est à ce moment-là que des traductions ont été faites pour accompagner les tournées. C'est à ce moment-là aussi que les Guinaud, donc cette association de dramaturgie, a essayé de faire en sorte que ça passe aussi par la publication. Et ensuite, il y a eu plus de choses qui ont été publiées. Après, il y a aussi certains textes qui n'étaient pas conçus comme destinés à résister au temps. Des textes qui sont très militants, ancrés dans une réalité sociopolitique extrêmement forte, et qui sont donc plus compliqués à envisager devant un public qui n'est pas leur public de destination originale.
Comment est-ce que Dario Fo, on le sait qu'il était extrêmement engagé politiquement, hein, il était anticlérical, d'extrême gauche, il a été censuré bien sûr en Italie, il a même été interdit de séjour, j'ai vu aux États-Unis. Il a subi de violentes répressions qui l'ont, pour l'empêcher de monter ses pièces. Sa femme, Franca Ramé, a même été enlevée, torturée, violée, on l'a su plus tard à travers ce qu'elle en a raconté, par des militants d'extrême droite. Comment est-ce que lui vivait cet engagement politique dans le théâtre?
Alors, il y a eu dans la carrière de Dario Fo plusieurs périodes. Il a commencé son travail théâtral dans des spectacles de revue où il racontait des petites histoires comiques. Donc c'est toujours du théâtre comique. Ensuite, il a fait un passage par le cinéma. Il a essayé de faire du cinéma burlesque, ça n'a pas marché. Du coup, retour aux scènes théâtrales avec sa femme Franca Ramé. Il s'appuie d'abord sur la tradition familiale de Franca Ramé, qui était une enfant de la balle, qui faisait partie d'une famille de comédiens ambulants, pour reprendre les canevas de cette famille et les réécrire. Et ensuite, il écrit toute une série de comédies qui sont jouées dans des théâtres privés, surtout du nord de l'Italie, mais ils partent en tournée. Enfin, la base, c'est Milan, mais ils partent ensuite en tournée pendant toute la saison. Et puis, donc, c'est de la satire qui n'est pas forcément politiquement dans un engagement frontal. Mais en 1962, ils sont invités à diriger une émission de variété qui s'appelle Canzonissima, Chansonissime. Une émission extrêmement populaire dans laquelle, donc, qui est liée à un concours de chansons, donc il y a des gens qui viennent chanter leurs chansons et puis ces passages des différents concurrents sont entremêlés de sketchs de Dario Fo, Franca Ramé et leur compagnie et de chansons qu'ils écrivent et composent eux-mêmes. Et là, au bout de la septième semaine, l'émission n'a pas lieu. Donc, ce qui voulait dire à l'époque où il n'y avait pas des millions, il n'y avait que deux chaînes à l'époque, ça veut dire qu'il y a une présentatrice qui arrive et qui dit devant toute l'Italie qui est en train de regarder Canzonissima, Dario Fo, Franca Ramé ne seront pas là ce soir, donc on va écouter les chansons et puis après, bonne nuit. Parce qu'ils avaient fait un sketch sur les accidents du travail qui semblait problématique à la direction de la RAI, donc de la principale chaîne, enfin de la chaîne italienne qui les programmait, dans un contexte de tension dans le milieu du bâtiment, dans un contexte politique, et on leur a demandé de censurer, de couper cette scène. Ils ont refusé, ce qui veut dire qu'ils ont été connus de toute l'Italie comme des gens qui s'opposent à la censure, et à partir de là, leur engagement était de plus en plus marqué, jusqu'à ce qu'en 1968, ils décident de rompre complètement avec les théâtres qui les avaient accueillis jusqu'alors. Ils dissolvent leur compagnie pour créer un collectif qui est lié au début au Parti communiste italien, et puis après ils se fâchent aussi avec le Parti communiste italien et créent leur propre circuit alternatif. Et là, ils envisagent le théâtre comme un moyen de lutte politique et le rire lui-même, le comique lui-même, comme quelque chose qui est propre à, d'une part, créer une communauté parmi un public qui n'est pas le public populaire à la Jean Villard où tout le monde se rencontre, le petit boutiquier de Suresnes et le professeur agrégé, etc. Mais public populaire conçu comme expression d'un peuple opprimé. Donc rire comme moyen de rassemblement, mais aussi comme moyen de prise de conscience d'un certain nombre de problèmes, avec la volonté qu'il y a un effet au-delà de la représentation. On sort de là et on va faire la révolution.
Et ils étaient à la fois adorés finalement par les Italiens, hein. Ils avaient une grande popularité et en même temps détestés par le pouvoir.
Alors le pouvoir était italien aussi, donc il y avait une partie des gens qui l'adoraient et une partie des gens qui le détestaient, oui effectivement.
Quand on traduit ces pièces, celles qui sont traduites, est-ce qu'il est arrivé qu'un travail d'adaptation ait été fait pour qu'elles puissent être intelligibles par le public français ?
Alors, oui. Y a plus, pour les questions d'ancrage politique, il y a plusieurs choses qui ont été faites ou qui sont faisables. Je vais vous prendre quelques exemples. L'une de ces pièces les plus connues, c'est « Mort accidentelle d'un anarchiste », qui est une pièce qui date de 1970 et qui repose sur un fait divers, mais un peu plus qu'un fait divers, survenu à Milan en 1969. Il y a eu une série de bombes qui ont éclaté en Italie, notamment une bombe dans une banque à Milan qui a fait plusieurs morts et un grand nombre de blessés. Alors, on sait aujourd'hui à peu près que cette bombe était... C'était une action d'extrême droite, mais à l'époque, c'est dans les milieux anarchistes qu'on va chercher des suspects. Et il y a notamment un cheminot anarchiste, Giuseppe Pinelli, qui est arrêté, qui est gardé en garde à vue et qui sort de sa garde à vue par la fenêtre du quatrième étage du commissariat de Milan. Et « Mort accidentelle d'un anarchiste », c'est un spectacle qui pointe toutes les incohérences dans les versions policières qui ont ensuite été données sur la mort de cet anarchiste, vraisemblablement peu accidentel. Et donc, quand il joue ça en Italie, il le joue au moment où il y a un procès là-dessus, les spectateurs connaissent tous les détails des renvois, le commissaire Intel, on sait que c'est le commissaire Calabresi, donc ça renvoie à des choses réelles, à des personnes réelles, à des faits qui viennent de se passer, à une actualité brûlante, alors que si on le joue en France en 2000, c'est l'année où ce texte a obtenu le Molière, et c'est l'année où moi j'ai découvert Dario Fo, je ne connaissais rien du tout de cette histoire-là, de cet ancrage de la pièce, mais ça devient autre chose. Ça devient, donc les allusions, on ne les comprend pas forcément, ou elles ont pu être coupées à la mise en scène ou à la traduction, et ça devient un texte hilarant et très percutant sur les bavures policières de façon plus générale. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être la modification d'une référence en fonction de ce qui peut être compris par le public cible. Par exemple, dans Nancy Paga, Nancy Paga, qui a été traduit par Valeria Tasca par Faut pas payer, qui est un texte de 1974, il y a un moment où le personnage interprété par Dario Fo dit « Oh là là, si je dis ça, après on va venir me voir. Ah, oh là là, terroriste, où est-ce que tu as caché le juge Sossi ?» Alors, le juge Sossi, c'était un juge qui avait été enlevé par les Brigades Rouges. Et à l'époque, le bruit avait couru que Dario Fo était lié à cet enlèvement. Et donc, c'était quelque chose où, à la fois, on savait qui était ce juge Sossi, on savait. À quoi ça renvoyait cette idée d'enlèvement, et en plus on avait le comédien derrière le personnage qui avait un lien personnel avec cette affaire. Quand c'est traduit pour être mis en scène en France en 1980, donc après un autre enlèvement qui a fait plus de bruit et qui était plus connu en France, qui est l'enlèvement d'Aldo Moro, ce qui a été choisi par Valeria Tasca, c'est de remplacer Sossi par Aldo Moro. Et alors là, la petite ironie, c'est que quand Dario Fo, un an plus tard, reprend ce spectacle, il change lui-même, il remplace Sossi par Aldo Moro. Sinon, il y a des choses... Parfois, l'ensemble de la pièce repose sur un personnage politique. Par exemple, en 2003, Dario Fo a fait un spectacle qui s'appelle « L'anomalo bicefalo », le bicéphale anormal. Ça raconte l'histoire d'un réalisateur qui veut faire un film, et le film porte sur Berlusconi. Berlusconi se trouve à une rencontre avec Poutine en Sicile. Et là, il y a des gens, un commando qui entre, qui leur tire dessus. Poutine meurt. Berlusconi est très mal en point, et heureusement, il y a un congrès de médecins russes dans le même hôtel, et ils arrivent à greffer dans la tête de Berlusconi la moitié du cerveau de Poutine. Et donc, Berlusconi se réveille, il a une moitié de cerveau russe, il ne se souvient plus de tout ce qu'il a fait, et donc il faut lui rappeler toutes ses actions. Il se dit « Ah bon, mais j'ai fait ça, mais c'est terrible. » Et puis parfois, il se met à parler en gros mots russes. Et donc, tout le déroulement de la pièce repose sur des allusions à la vie politique, et pas seulement politique, de Berlusconi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, pour des spectateurs de cette époque et de ce pays, même si vous, ça vous fait rire l'idée générale, après, le dérouler avec toutes les points de détail extrêmement précis, ça faisait rire le public italien. Un public étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, alors, il y a quelque chose qui a été fait en Russie, où ils ont inversé, ils ont fait vraiment, pour le coup, une transformation, une adaptation complète de la pièce, où c'est Poutine qui se réveille avec la moitié du cerveau de Berlusconi. Donc, la pièce s'appelle Berlus-Poutine. Et donc, ils ont complètement réécrit, ils ont gardé la trame, mais ils ont complètement réécrit en fonction plutôt de la vie politique de Poutine et de Berlusconi.
Et donc là, on peut comprendre finalement pourquoi, cette question que je vous posais au début, pourquoi certaines pièces ne sont pas traduites, tout simplement parce que en France, on n'aurait pas les éléments de contexte sociopolitique pour les comprendre.
Ouais. Après, il y a quelque chose de curieux. Par exemple, il y a un texte qui a été traduit par Marie-France Sidet, qui s'appelle Klaxon, trompette et pernacchi, Klaxon, trompette et pétarade, qui est un spectacle de 1981, qui parle encore une fois d'enlèvement, où cette fois-ci, ça n'est pas Moro, c'est Agnelli qui a été enlevé, donc Agnelli, le patron de la Fiat à l'époque. Il a été enlevé, et puis il y a une espèce de, il y a un accident de voiture, une histoire très compliquée. Il y a un de ses ouvriers qui vient de mettre à la porte, qui se retrouve à devoir le sauver, l'amener à l'hôpital. L'ouvrier lui laisse sa veste. Et il le laisse comme ça à l'hôpital, il a la tête complètement détruite. À l'hôpital, les gens trouvent les papiers d'identité de l'ouvrier et donc ils lui reconstruisent le visage avec la tête de son ouvrier. Donc Agnelli, le grand patron, se réveille avec la tête de son ouvrier. Donc il y a tout un jeu sur les sosies très plotinien. Et donc là aussi, il y a énormément d'allusions à l'actualité. Et je pensais que c'était un texte qui était difficile, voire impossible, de monter ailleurs. Or, ça a été monté par Marc Prin en 2010, avec un très grand succès. Ça a été créé au Théâtre des Amandiers à Nanterre, et puis il y a eu une assez longue tournée. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été coupées. Et on conservait, donc il y avait des indications quand même dans le programme pour avoir une idée de qui était Agnelli, mais on comprend que c'est un grand patron et un ouvrier. Donc là encore une fois, on a une forme d'universalisation de la chose qui rend la pièce compréhensible et drôle quand même. Alors moi, il se trouve que j'avais emmené des étudiants la voir, il y en a à qui ça a beaucoup plu, mais après, dans leur copie, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient rien compris du tout.
En tout cas, en vous écoutant, là, on se dit que grâce au génie des traducteurs et des metteurs en scène, on peut finalement tout traduire, même si certaines pièces ne l'ont pas encore été. Où est-ce qu'on en est par rapport à aux droits, notamment ?
Alors, c'est une question qui n'est pas drôle du tout. Hélas. Alors, on peut tout traduire. Bon, après, moi, je pense qu'il y a certaines des pièces qui sont mauvaises aussi.
Laisse juge. J'ai pas eu les pièces non traduites.
En ce moment, il y a un couple de traducteurs qui sont les seuls autorisés à traduire et qui exercent une surveillance extrêmement stricte. Sur les mises en scène qui sont faites de leur traduction. Je dis leur traduction parce que quand il y a eu une version précédente, on retrouve beaucoup de la version précédente en général de Valeria Tasca, dont les traductions ne sont plus autorisées dans la nouvelle version. Ça crée des problèmes pour la diffusion de l'œuvre. Alors, indépendamment de la qualité de leur traduction, sur laquelle je ne m'arrêterai pas. Aussi ce rôle de censeur qu'on leur a donné, mais qu'ils utilisent, ce droit de censure qu'ils utilisent de façon très forte, où alors que Dario Fo avait un discours de « oui, moi mes textes, je les réécris, je les réadapte, il faut les remettre au goût du jour, etc. La liberté de l'acteur, gna 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 gna, là il faut tout faire exactement comme Dario Fo l'a fait, sans rien changer, même quand parfois c'est difficile de ne rien changer. »
On va parler du gromelot, cette fameuse langue dont Dario Fo était très friand dans ses pièces. Ses solos notamment sont écrits en gromelot. Est-ce que vous pouvez, alors je sais qu'il y a beaucoup de traducteurs professionnels et de fins connaisseurs dans cette salle, mais enfin, est-ce qu'on peut quand même expliquer ce qu'est le gromelot ?
Tout à fait. Alors le gromelot, c'est au départ un exercice d'école de théâtre qui a vraisemblablement été inventé à l'école du Vieux-Colombier par Jacopo et ses élèves, qui consiste à parler dans une langue inventée ou une imitation de langue existante, sans qu'il y ait, ou en laissant très peu, de véritables mots de la langue en question. Le but de l'exercice au départ, c'est de créer un langage théâtral qui ne soit pas fondé uniquement sur la parole et le sens des mots, mais qui crée un sens général par les intonations et la gestuelle. Dario Fo a vraisemblablement eu connaissance du terme gromelot par le mime Jacques Lecoq, avec qui il a travaillé au début de sa carrière. Et alors, il a déformé ça en gramelot. Il fait plusieurs interprétations et il raconte des histoires de ce terme et de cette pratique du gromelot. De temps en temps, il dit que c'est quelque chose, que le mot même gramlotto aurait été inventé par les comédiens en exil de la Commedia dell'arte. Parfois, il dit oui, c'était quelque chose qui leur servait à se faire comprendre en France, même s'ils ne parlaient pas vraiment français, donc une langue qui permet de se faire comprendre. Et parfois, il dit non, c'était une langue qui permettait de ne pas se faire comprendre par la censure. Donc, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, et puis les censeurs ne comprenaient rien parce que ça ne correspondait pas à du texte, et du coup, on pouvait dire voilà, il n'y avait pas de problème de censure. Donc, il y a cette tension entre quelque chose qui est fait pour être compris et quelque chose qui est fait pour ne pas être compris, qui, du coup, est très fort dans le pouvoir comique, finalement, de ce que ça donne, parce que le rire naît à la fois de ce qu'on reconnaît dans la langue et d'une forme de dépaysement où on ne reconnaît pas tout. Et alors, par ailleurs, il joue beaucoup, pour sa part, sur les dialectes italiens, surtout les dialectes du nord de l'Italie. Et parfois, il prétend qu'il fait ses spectacles dans un dialecte de la plaine du Pô du XVe siècle, mais qui, en réalité, est un gromelot, disons un pseudo-dialecte. Et il y a différents niveaux de grommellement entre ces différentes pièces, des pièces souvent courtes, très peu compréhensibles à la lettre, et puis des pièces plus longues qui tendent plus vers le dialecte, avec quelques onomatopées, des mots inventés, et qui sont plus compréhensibles.
Et alors la grande question, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on traduit ce gromelot de Dario Fo ?
Alors, c'était intéressant dans ce qui a été dit sur les exemples de Plaut et de Chaplin, c'est qu'à chaque fois, c'était des exemples où il y a une traduction qui va avec. C'est-à-dire qu'il y a une situation de jeu de reconnaissance et de différence entre une version et l'autre. Chez Dario Fo, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais dans ses solos, Il fait des spectacles où il fait en général une série de, petites scénettes qui sont présentées par des prologues. Et dans les prologues, il parle en italien et en italien, il raconte ce qu'il va jouer ou re-raconter ensuite en pseudo-dialecte, grommelot, etc. Donc, les spectateurs, disons, connaissent l'histoire avant de l'avoir jouée, ce qui permet de saisir un petit peu mieux ce que ça donne. Donc, il y a déjà un effet de traduction. Quand ces textes-là sont publiés en Italie, ils sont publiés, c'est Franca Rame, l'épouse et principale collaboratrice artistique de Dario Fo, qui s'est occupée de toutes les publications. Ils sont publiés en version bilingue, où on a d'un côté, comme dans les éditions classiques de Plaut, on a d'un côté la version en pseudo-dialecte et d'un autre côté une transcription en italien standard. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, pour les traducteurs, c'est que d'un côté, ils ont affaire à ce matériau extrêmement riche, extrêmement drôle, extrêmement complexe, et de l'autre, on leur donne comme version pour les traducteurs la transcription en italien. Alors, ce qui s'est passé pour la France, il n'existe que des traductions dans ce qui est publié, dans ce qui est jouable, ce qui est autorisé. Il n'existe que des traductions dans un français tout à fait français. Alors, c'est dû pour les premières traductions au fait que c'était des traductions qui avaient été conçues comme accompagnement des tournées de Dario Fo. Donc, les traductrices avaient fait ces traductions pour faire des surtitres et pour faire des publications qui servaient de programme au spectacle et donc qui étaient à destination de spectateurs-lecteurs qui avaient un contact avec la langue originale. Après, ce sont ces traductions-là qui ont continué à être diffusées et les nouveaux traducteurs ne proposent pas d'invention particulière. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible de le faire. Il y a eu quelques textes dont Michel Tremblay a fait une version en joual ou en pseudo-joual, des extraits de Mistero Buffo. Et puis, on peut s'amuser très bien à déformer la langue française pour créer une langue comique en soi. Je peux vous montrer un exemple, si vous voulez. Volonté. Alors, je tiens à dire quand même que les versions en français, les traductions ont pu donner quand même lieu à de très beaux spectacles en langue française. C'est-à-dire que même sans cette langue, sans cette recherche linguistique, les textes sont bons quand même. Mais on perd quand même le caractère comique de la langue. Alors, je peux vous lire un extrait de l'histoire du tigre. L'histoire du tigre, alors quand il présente l'histoire du tigre, Dario Fo, il dit que c'est une histoire qu'il a entendue raconter en Chine. C'est l'histoire d'un soldat de la longue marche qui est blessé et qui est donc abandonné par ses camarades, qui trouve refuge dans une grotte, et cette grotte est habitée par une tigresse et son petit tigre, que Valeria Tasca a traduit par le tigrichon. Et il est soigné par la tigresse. Et donc il s'agit d'un passage où la tigresse avance vers le soldat et lui demande de la téter. Et donc il se met à téter la tigresse. Est-ce que je vous lis la version originale ?
Oui.
Alors, je vous lis la version originale, sachant que c'est difficile pour moi de lire cet italien qui n'est pas tout à fait l'italien. La fa un passo avanti, ta, un'altra teta, le tete che gane le tigri, che teteria. Gos comincia a tetarne un'altra, volevi buttarne fuori, ma quella che stava sempre così, puntata a controllarmi, che se butti via una gota di latte, che la mi mangia integro. C'ha pa neanche a fiat, giup, 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 tetavi, andava giù il latte, cominciavi a soffegare, plop, plim, plop.
m'ascoltavo e latte andar perfino nei veni della gamba. Fatto sta che, sarà l'impressione, sentivi sbatter meno il cuore. Mi sentivi anche che andava il latte nei polmoni, che aveva del latte dappertutto. Finito, ploc, se volta, un'altra teteria. Pareva di essere in fabbrica alla catena di montaggio. La panza sempre più sgonfiata, piena piena. Se lo viaggiò così, incrociato, con la panza sbulenta che mi pareva di essere un Buddha. Ptum, 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 rigutoni, che avevi il culo con le sciape strette, stringate strence. Allora.
Bravo. Merci.
Je vous lis la version de Valeria Tasca. Elle fait un pas en avant, paf, un autre téton. Ce qu'elles en ont, les tigresses, une batterie de tétons. Je me suis mis à en téter un autre, j'aurais voulu en recracher un peu, mais elle était toujours plantée là, qui me surveillait. Si je recrache une seule goutte, elle va me manger tout entier. Je ne reprenais même pas mon souffle. Je tétais, le lait descendait, je commençais à suffoquer. Plouf, plim, ploc, j'entendais le lait descendre jusque dans les veines de ma jambe. En tout cas, peut-être que c'était une impression, je sentais moins les battements de mon cœur. Je sentais même le lait qui passait dans mes poumons. J'avais du lait partout. Fini, ploc, elle se retourne, nouvelle tétée. J'avais l'impression d'être à l'usine, à la chaîne de montage. Le ventre de plus en plus gonflé, plein, tout plein. À tel point qu'accroupie comme j'étais, avec le ventre ballonné, je me serais pris pour un Bouddha. Une série de rots. J'avais les fesses serrées au cul, étranglées, bloquées. Et maintenant, une possibilité alternative obtenue par déformation phonétique du français et ajout de sonorités dialectales plutôt du nord de la France, avec le même texte. Elle fait en pot, en avant, pouf, en autre tetoune. Zone ces tetounes, les tigresses, une vraie tetounerie. J'en commençais à en teuter en haute. Je voulais en dégobiller un pieu, mais elle était là à m'allaiter en fixons pour me garder churmée. Et si je dégobille un seul ch'tigoution de lait, celle-là, elle me dévoure tout entière. Même pas possible de reprendre mon souffle. Glou, 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 je te tonce, elle te tounce. Et je retetonce, elle te tounce. Le lait descendait, je commençais à sourfloquer. Ploum, plic, ploc. Ch'coution à lait qui m'arrivions jusque dans les veines de la jambe. Mais oui, c'était peut-être une impression, mais je sentions moins les tagadas de mon cœur. Je sentions même un lait qui me rentrait en dedans de les poumons. J'avions du lait pour tut. Terminus et Fifi et Nini. Que Nini, elle se retourne et vlan, nouvelle tetounerie. Où qu'on est là, à l'usine, à la chienne de montage. La panse de plus en plus gonflée, tout enflée, l'enflure. J'étions assis porteur. Avec la panse en balloune, j'avions l'impression d'être en Bouddha. Blop, 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 rototant en série, je deviens un serial roteur. Je t'avions dans le cul avec les fesses archi serrées, étrangle que je te cadenasse.
Bravo, bravo pour ces propositions. Et là, on voit, en fait, je savais pas, hein, c'est pour cette question de droit, mais effectivement, la tristesse et la frustration qu'il y a dans cette impossibilité de pouvoir bien faire sortir ces traductions, les faire même jouer, en fait.
Ben oui, c'est dommage. Mais demain, ceux qui seront à l'atelier de traduction, on va s'amuser quand même en faisant ce qu'on voudra, puisque personne ne viendra nous contrôler.
En tout cas, ce qui est intéressant quand on écoute vos propositions et puis quand on discute de ces questions de traduction du théâtre, c'est de voir que l'art de la traduction rencontre ici aussi l'art de la mise en scène. Ce sont vraiment, ils fonctionnent ensemble dans la traduction du théâtre.
Oui, oui, même si, pour citer Valeria Tasca, traduire du théâtre reste traduire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de metteurs en scène qui, en tant qu'experts de la scène, se revendiquent comme traducteurs, quand bien même ils n'ont pas les compétences linguistiques qui leur permettent de comprendre vraiment les textes qu'ils traduisent. Donc, effectivement, la traduction théâtrale nécessite de connaître l'objet sur lequel on travaille, mais de la même façon que la traduction de la poésie nécessite de connaître la poésie. Voilà, donc on peut tout à fait se dire, oui, il faut être comédien, il faut être metteur en scène. Non, il faut effectivement connaître, connaître bien la scène. C'était le cas de Valeria Tasca, le cas de Marie-France Sidet, qui a traduit un certain nombre de pièces de Dario Fo aussi, donc, qui sont de grandes spectatrices, de grandes connaisseuses de théâtre, mais qui n'étaient absolument pas ni des comédiennes, ni des metteuses en scène, et qui font des traductions, de très belles traductions. Donc ce n'est pas une nécessité que d'être sur le plateau pour traduire du théâtre. À mon sens.
Dans l'un des textes que vous avez écrit, que j'ai lu, vous expliquez qu'il faut aussi apprendre à renoncer à une part de respect de la langue. Et c'est une chose que, si j'ai bien compris ce que vous écriviez, on a du mal à faire en France. Est-ce qu'il y a une différence pour ça entre la France et l'italien ? Est-ce que les Italiens, de par l'histoire de leur langue, ont peut-être plus de facilité à rompre avec ce respect de la langue ?
Alors, l'histoire de la langue italienne est effectivement très importante dans la mesure où l'italien est une langue nationale que depuis très, très récemment. L'Italie est un pays depuis la deuxième moitié du 19e siècle et ce n'est pas parce qu'ils étaient un pays unifié politiquement que l'unification linguistique est venue beaucoup plus tard, d'abord avec le service militaire, et puis surtout avec la télévision, donc dans les années 1950. Et de fait, il y a encore aujourd'hui souvent un substrat dialectal très important dans les cultures italiennes, les cultures régionales italiennes. Et la langue théâtrale a longtemps été séparée entre langue littéraire. Pour le coup, il y a une langue italienne littéraire très, très ancienne. Langue littéraire pour les spectacles de type élevé et langue dialectale pour les spectacles comiques. Donc le dialecte au théâtre est associé à des genres comiques. Et donc il y a des types, les masques de comédie dell'arte correspondent à des types régionaux et donc aussi à des langues particulières, à des dialectes particuliers. Et il y a beaucoup de jeux sur ces mélanges possibles de dialectes. Maintenant, par rapport au français, je suis pas sûre, on n'a pas le même rapport aux langues régionales, mais on peut faire plein de jeux de mots en français, et ce n'est pas les dramaturges qui manquent, qui ont joué sur la langue de Jarry à Novarina, en passant par Ionesco, Tardieu. Je pense pas que ce soit les choses sont différentes et du coup il y a aussi quelque chose de régional et social associé au dialecte en Italie qui rend la traduction compliquée ou l'adaptation compliquée, mais je pense pas que ce soit dû à un respect de la langue standard qu'on aurait en France.
Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Laetitia Dumont-Lévy ? Non, il doit y avoir un micro sans fil quelque part. Tout au fond, oui.
Ça ne marche pas ? Ah oui ? Ok. Je voulais revenir sur cette histoire du contrôle sur les mises en scène. J'avais deux questions parce que je connaissais pas cette histoire et je suis assez scandalisé. Pourquoi est-ce que on n'a pas le droit de jouer les traductions de Valeria Tasca ? Enfin, il me semble que vous avez dit ça. Et quand est-ce qu'on aura de nouveau le droit de jouer des nouvelles traductions de Dario Fo ? Enfin, des pièces qui ont été.
Oui, c'est une question de droit d'auteur. Dario Fo et Frank, en 2011, Valeria Tasca, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré à la diffusion de l'œuvre de Dario Fo et Frank Allamé en France, qui les a beaucoup accompagnés dans leur tournée, reçoit non pas un appel de Dario Fo et Frank Allamé, mais non pas une lettre d'eux-mêmes, une lettre des agents, mais elle reçoit une lettre des avocats des agents de Dario Fo et Frank Allamé lui disant vos traductions ne sont pas à jour, soit vous les refaites toutes, soit elles ne seront plus autorisées. Et Valeria Tasca, qui par ailleurs était une dame âgée malade, leur a dit « allez vous faire voir ». Et donc, les droits sont passés à ce couple de traducteurs. Et maintenant, ce sont, à part quelques textes traduits par Marie-France Hidet qui ont encore droit de citer, ce sont eux qui ont... c'est simplement les auteurs ont le droit de décider de ne pas accepter que leur texte soit diffusé dans telle ou telle version, donc ils ont droit de refuser une autorisation même s'il avait donné auparavant. Alors savoir quand on pourra faire ce qu'on voudra, si les choses ne changent pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de la part des ayants droit de Dario Fo et Frank Alam aujourd'hui une modification, et pour l'instant ils n'en prennent absolument pas la direction, on aura le droit quand ce sera dans le domaine public, mais nous ne serons pas là pour le voir, je pense, parce que ce ne sera pas 70 ans après la mort de Dario Fo, mais 70 ans après la mort de son fils, parce qu'ils ont pris soin d'enregistrer toutes leurs œuvres à leur nom et aussi au nom de leur fils.
D'autres questions ? Bon. Eh bien, merci infiniment, Laetitia Dumont-Lévy, pour tous ces partages très intéressants autour de Dario Fo. Merci à vous pour votre écoute.